On y va ?
7h, 9h, les promesses de l'aube.
Et pour les plus assidus,
du lundi au jeudi.
Ah bah c'est bon, c'est bon.
105.4 FM.
Des promesses, toujours des promesses.
7h, 9h, les promesses de l'aube.
Donc c'est dans la maison,
c'est avec six familles, quoi. Donc ils sont rentrés partout, casser les portes, tout chamboulé, tout cassé, les enfants dehors, tout dans la rue.
Abou, bak موجود بك احكي لهم عبر كل هم في اطفال في نسوان. الجلد ضربوا بك ابوي مسوي عمليه قلب مفتوح جديد وضربوه ونقلوه على المستشفى عند السلطه.
Donc son père qui venait de faire une opération à cœur ouvert lui dit écoutez attendez parce que il y a des enfants il y a des femmes et donc ils l'ont quand même tabassé et il a été à l'hôpital de l'autorité palestinienne.
انا بكيت في الاوتيل هان بكيت عايش في السكن لان سكن عمال تحت اجد جيش هان وانا طلعت منها فسكت منها.
Donc lui, il logeait ici, il y a un petit logement pour les employés ici, une petite chambre en bas. Donc ils sont venus ici et ils l'ont pris d'ici.
Donc à
17 ans, ils sont venus ici, mais lui, il était parti, pardon. Mais le lendemain, c'est les forces spéciales qui l'ont attrapé.
بضربه في محل حساس جدا هو على الراس من بين الكتفين عشان انا بكره بدي اتجوز بجيبش خلف الاحتلال بضرب في مواقع حساسات عشان بكره لو بدي اتجوز بجيبش خلف.
Et il
n'y
a pas un morceau de son corps qui
n'a
pas subi.
Il a tapé
sur la tête, on a tapé entre les jambes. Ils ont fait tout fait pour que même quand il se marie plus tard, qu'il
ne
puisse pas
avoir d'enfant. Il a fait un petit peu de temps. 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 لو شتوية شغلنا يا ساكن.
Donc il était dans une petite pièce d'interrogatoire, un mètre sur deux, avec un petit endroit pour les toilettes, sans rien, sans couverture ni rien, et avec quand il fait froid, il rajoute le froid, quand il fait chaud, il met encore plus chaud, donc pour avoir des conditions plus difficiles de détention.
حيطانها من خشب شبريس كان ولا واحد تركي عليهم ولا إشي. 85 يوم ضليت في التحكيك النفسي بنامش الليل ولا بصحى ولا بظلني صاحي 24 ساعة تشبوا علي مي مسكعة لو نمت تشبوا علي مي وسخة عرس في ذبان بهمة برمونة بوابة الزلزالة زي الباب ضار لو صرخت لو هيك ولا حدا بسمع صوت.
Donc il était comme ça pendant l'interrogatoire 85 jours dans une pièce comme ça dans un confinement où il l'empêchait de dormir, où il mettait du bruit, où il mettait de l'eau froide, il mettait de l'eau, il jetait de l'eau froide quand il s'endormait, il jetait de l'eau sale dessus. Les murs qui sont tout qui sont pas lisses, quoi, où tu peux pas t'appuyer dessus avec des portes un peu hermétiques, donc même s'il crie, il y a personne qui entend quoi que ce soit.
ممنوع من كل شيء ممنوع من الغرفة ولا 85 يوم ولا شفت حدا غير تحكيك التحكيك في إيش اسمه شبح الشبح هو يحطون الغرفة يحطوا الجنازير على إيدي يصيروا يسحبوا فيه.
Donc en fait, il était pendant 85 jours, il n'avait personne autre que les interrogateurs et où il était accroché à des fils accroché avec des fils de fer.
في كمان الموزة اسمها في التحكيك كرسي الموزة. بحطوك قعدوك عليه sur le pouvoir été. Pour ce Kahraba, sur le pouvoir Kahraba.
Donc il est assis sur une chaise qu'on appelle la banane, où à peine tu es assis dessus, que il y a ton dos qui se déplie complètement. Quoi. Donc ils ont menacé qu'ils vont arrêter sa mère, qu'ils vont arrêter son père, qu'il faut qu'il avoue, parce qu'ils vont arrêter les membres de sa famille. Pendant 85 jours comme ça, il est sorti, il pesait 40 kilos alors qu'à la base, il en pesait
70. عند التحقيق نفسي تحقيق جسدي تحقيق كل شيء انا في التحقيق حاصروا اهلي ممنوع طلع من الضفه ممنوع سافر ممنوع منعوا على اهلي كل شيء
donc lui il était arrêté et tout était interdit pour ses parents ne pouvaient pas voyager ses parents ne pouvaient pas sortir de la Cisjordanie et lui avec un interrogatoire et une pression torture physique et psychologique ils l'ont mis dans un endroit qu'on appelle la Asafir c'est les oiseaux donc c'est une prison qui est en général pour qui est connu parce que c'est là où il y a des espions en fait et c'est des Palestiniens qui ont retourné ou des Palestiniens qui disent on te réduit ta peine si tu arrives à retirer des informations et donc souvent ils arrivent et disent ah mais toi t'es le fils de machin je te connais tout bazar pour pouvoir retirer des informations et lui il a tenu le coup malgré qu'il avait 17 ans et qu'il n'y connaissait pas grand chose de ce machin là il a tenu le coup de ne rien lâcher
fait d'arrêt كل شيء فيش علاج ولا في أطباء ولا في أي إنسان في السجن المكنة البوسطة من السجن على السجن كراسي حديد هي البوسطة زي الباز شيء اسمه نحشو بساط حديد وسخات كالبشورة من إيدينا طول الطريق مثلا بتمشي من كل سجن بين سجن في ساعة مسافة ساعة كالبشورة ولا في حمام ممنون تأخذ مي ولا شيء
Donc chaque fois, il transfère d'une prison à une autre. C'est dans des espèces de camionnettes où ils sont sur un truc métallique, où ils sont accrochés des mains, des pieds, où ils peuvent rien. Quoi. Ils peuvent pas boire, ils peuvent pas bouger. Ils peuvent, à chaque déplacement d'une prison à l'autre, c'est comme ça.
Dans le sijin, أي سجن موجود في السجن عند اليهود, كل يوم تفتيش داخل القلعة. إحنا كل عام القلعة هو السجن. تفكيش يومي يوم يوم نص الليل صباحا انت في السجن فيش لك حياة مستقرة كل يوم ناكل كل يوم قمع برشونا غاز بضربونا انا ايدي شاب اسمه سامي ابو دياك اللي رقمه استشهد بين ايدي من علاج فيش اطباء اطباء قالوا اخر شهر
Donc quand il est en prison, bah c'est tous les jours des interrogatoires, tous les jours des fouilles corporelles, des fouilles dans la cellule. Parfois ils leur mettent des bombes lacrymaux, des trucs de gaz. Même quand ils sont blessés, quand ils ont des blessures, il n'y avait pas de tête médicale. Il a un ami à lui qui est décédé comme ça dans ses bras.
عبد دياب وهو بكى في السجن 19 سنة مات في السجن خطأ طبي يوم دفنوه سلموه للحكومة الأردنية دفنوه في الأردن هو من جنين سيد الظهر
Donc il avait fait 19 ans de prison. Il est mort par le manque de soins médicaux. Et quand ils ont rendu son corps, ils ont donné aux autorités jordaniennes pour qu'il soit enterré en Jordanie, alors que lui il est originaire de Jenin.
أنا لليوم بدفع ثمن من الاحتلال أنا ممنوع أطلع من المحافظة لو بدي أطلع من المحافظة لو مسكونا الجيش محسوم بغلبوني بوقفوني بالساعات تفتيش أي تاكسي بكيت فيه بفتشوه كله لليوم بدفع الثمن
Jusqu'à aujourd'hui, il paye le prix de ce moment-là. Il ne peut pas sortir du gouvernorat d'ici. Chaque fois qu'il sort, qu'il a quelque chose, il va rester des heures où il va fouiller tous ses paquets, ses machins, dès qu'il veut sortir de la région.
Oui.
Et merci de m'avoir écouté.
Est-ce qu'ils ont donné une raison ou c'est comme ça
Voilà, l'interview continue, mais on va profiter plutôt de la présence de notre invité en studio pour en parler. Donc, vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube. Il est 8h12 et nous accueillons Nadia Farc de l'association belgo-palestinienne en studio. Bonjour Nadia. Je vais augmenter le volume. Reparle un peu. Hop. C'est toujours comme ça que ça se passe.
C'est bien les problèmes.
Voilà, super.
Voilà, le problème technique que peut-être fait descendre un peu l'émotion, c'est très bien comme ça.
Voilà, c'est vrai que, donc, pour remettre dans le contexte ce qu'on vient d'écouter, l'association belgo-palestinienne, tu peux en redire quelques mots, mais organise depuis de nombreuses années déjà ce qu'on appelle des missions civiles d'observation. Et donc, ça permet à des citoyens, citoyennes d'ici, d'aller sur place, se rendre compte de la situation et donc rencontrer de nombreuses associations. Et ici, durant les vacances de Toussaint, il y a eu une mission qui est partie. Il y a deux groupes, je pense, qui sont partis et qui ont eu l'occasion de rencontrer de nombreuses organisations et de voir sur place que la situation est bien pire que ce qu'on peut en savoir ici. Et donc, est-ce que tu peux nous redire un peu qui était cette personne et comment remettre en contexte aussi ses propos, donc son histoire.
Donc, c'est vrai qu'on avait deux groupes qui sont partis fin octobre, début novembre, comme toutes les missions, on se balade un peu partout en Cisjordanie. Là, on était à Bethléem, on attendait le bus et on allait partir. Mais la personne qui travaillait à l'accueil de l'hôtel a vu sur un des participants, Cédric, un badge sur les enfants prisonniers. Et donc, ça l'avait interpellé déjà la veille. Et chaque fois, il tournait autour de lui et il y avait la barrière de la langue. Il voulait lui dire que c'était super que lui mette un badge des prisonniers parce que c'est quelque chose qui le touche lui personnellement. Et du coup, il m'a dit, j'aimerais bien lui parler mais j'arrive pas, est-ce que tu veux bien traduire? Et c'est comme ça, c'est une rencontre improvisée, c'est une rencontre spontanée. Et voilà, donc il a raconté un peu son histoire, qui c'est dur, et donc c'est dur d'entendre ce qu'il a vécu. Et c'est vrai qu'on rencontre des ONG qui nous racontent ça, c'est pas la même chose que d'avoir ce témoignage dans la rue de quelqu'un comme ça qui est juste heureux qu'on vienne pas seulement pour du tourisme mais qu'on vienne aussi pour écouter les gens. Et ça me rappelle l'exposition qui est pour le moment à Bruxelles, au Parlement fédéral. C'est aussi une organisation palestinienne DCI qui s'occupe de la défense des droits des enfants, qui expose ici, grâce à leur équivalent en Belgique, DEUI et de Brodok Dalen, c'est des témoignages d'enfants qui étaient en prison. Il faut savoir que les prisonniers en Palestine, c'est un nombre très important. On estime à 40% de la population masculine qui a été en prison depuis l'occupation des territoires en 1967. Donc ça représente un nombre très important. Il y a même un ministre des prisonniers, pour vous dire à quel point c'est important. Et il y a des hommes, il y a des femmes, et il y a aussi des enfants. On estime à 10 000 enfants depuis l'an 2000 qui ont été arrêtés par l'occupant. Et ces enfants témoignent de façon très, c'est très touchant de d'entendre leur histoire parce que les enfants c'est les premières victimes dans ce genre de dans les guerres en général. Et là, il y a quand même quelques générations de jeunes qui n'ont connu que ça, qui n'ont connu que l'occupation. Je veux dire, donc il y a eu 67, il y a eu Oslo en 2000, et donc il y a des générations et des générations d'enfants, de jeunes, de vieux qui n'ont connu que vivre sous occupation et qui n'arrivent plus à trouver quelle est la normalité, à part peut-être parfois la télévision. Et là, cette organisation d'ICI qu'on a rencontrée avec un des groupes, ils nous ont présenté un peu la situation des enfants en prison, comment eux, ils essayent de défendre les enfants dans des tribunaux militaires, parce que les enfants en Palestine, dès qu'ils sont arrêtés, ils se retrouvent devant un tribunal militaire, avec un juge militaire, un procureur militaire. Et il faut un avocat palestinien qui puisse le défendre, en général, dans des conditions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vrai que c'est toujours très traumatisant. Souvent, les enfants sont arrêtés en pleine nuit. Bref, cette organisation DCI, comme six autres, ont été déclarés terroristes par le gouvernement israélien il y a quelques mois. c'est Al-Haq, une organisation des droits humains, l'équivalent de la Ligue des droits de l'homme en Belgique, DCI qui défend pour des droits de l'enfant. Il y a aussi la défense des travailleurs, une association de femmes, une association d'agriculteurs. Donc toutes ces organisations qui font le pilier de la société civile palestinienne, c'est les plus grosses organisations dans chacune dans leur secteur, qui ont été déclarées terroristes. Mmh. Et donc quand on rencontre ces gens sur le terrain, qui nous racontent comment le fait de rester dans leur bureau, ils peuvent être arrêtés parce qu'ils sont en train de promouvoir la terreur, ils sont l'appel à la haine. Donc ils continuent à faire un travail de documentation, de défense des enfants, des adultes, des agriculteurs, des femmes, alors que l'occupant peut les arrêter à n'importe quel moment et les mettre en prison.
Et c'est on parle parfois de rétrécissement de l'espace militant, c'est quelque chose qui est vraiment vérifié et vécu au quotidien, je vais dire, par les associations palestiniennes, justement, qui voient leur travail d'organisation, de réflexion de la population, avec la population palestinienne, entravé justement par ces arrestations arbitraires, par ces irruptions de l'armée dans leurs locaux. Et effectivement, les groupes ont pu voir aussi la destruction des portes, les scellés mis sur ces organisations. Ça empêche justement aussi la société palestinienne de pouvoir s'organiser elle-même et apporter une...
Mais disons que là, ils ont décidé qu'ils allaient pas suivre, enfin, répondre à cette terreur, quoi. Donc, ils ont ouvert les portes, ils ont enlevé les scellés. Al-Haq a même donné la porte scellée à un centre d'art, d'art contemporain, pour que des artistes puissent, à partir de cette porte scellée, faire une œuvre contemporaine. Donc, ils résistent par tous les moyens, par l'art, par aller à l'encontre de ça, parce que voilà, ils sont dans leurs droits, c'est un territoire occupé, c'est une armée d'occupation, c'est aussi des colons qui sont des Israéliens qui viennent s'installer dans le territoire occupé. Donc au niveau du droit, ils ont tout avec eux, et juste que c'est important qu'à l'extérieur, puisqu'ils sont plus faibles, à l'extérieur, il faut que les gens puissent aussi agir contre ça. Donc nous, on va juste voir, écouter et témoigner ici, mais le rôle le plus important, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements qui doivent à un moment donné dire stop à cette impunité. Ça fait trop longtemps que ça dure. À un moment donné, il faut faire le holà de ce qui se passe là-bas et de dire il faut agir. Il faut pouvoir soutenir ces organisations de droits humains, mais aussi la population qui vit sous occupation, avec toutes les humiliations, des destructions de maisons, des confiscations de terres, arrachage d'arbres, des oliviers. Enfin, c'est quotidien. Et là, on avait un gouvernement israélien qui paraissait comme la gauche israélienne, un gouvernement alternatif. Mais malgré tout, ces dernières années, tout a explosé au niveau des chiffres. Je veux dire, ils ont doublé au niveau des attaques. Les colons se sentent une impunité parce que même s'ils tuent quelqu'un, ça n'a aucune répercussion, puisque voilà, ils peuvent continuer, ils ne sont pas emprisonnés pour ça. Donc il y a une énorme impunité. Parfois, un colon, il peut tuer quelqu'un, mais il va se retrouver avec des travaux d'intérêt public, pas plus que ça, quoi. Donc il y a un sentiment d'impunité, avec en plus l'armée qui est là pour les protéger, donc qui est partie prenante des attaques contre les gens. Et donc il y a des ratonnades comme ça, des descentes dans les champs. Il y a une augmentation de la violence assez exponentielle ces derniers temps. Et là, avec un gouvernement d'extrême droite qui s'annonce depuis prochainement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais au moins, je me dis que les Européens, au moins, ils sauront qui ils ont en face d'eux. Ils vont pas dire on sait pas, ils savent très bien qui c'est Ben Gvir, ils l'ont déjà vu, ça a été documenté, il est présent avec un revolver en demandant qu'il faut tuer les Palestiniens, qu'il faut tous les expulser hors de la Palestine. Enfin, donc il a un discours clairement d'extrême droite et clairement anti-palestinien et criminel, et donc j'espère qu'au moins les interlocuteurs européens vont commencer un peu à agir un peu plus normalement envers eux.
Mais est-ce que pour les auditoristes qui ne connaîtraient pas bien la situation, tu as évoqué les accords d'Oslo, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place suite aux accords d'Oslo et qui contribue peut-être au fait que ces différentes zones aussi, il y a une zone A, B, C qui est contrôlé par les Palestiniens, par Israël. C'est ça qui rend complexe aussi la situation et la compréhension de l'extérieur, et puis aussi la situation sur place. Il y a de nombreux témoignages qui expliquent que c'est vraiment un gruyère maintenant, la Cisjordanie, et il y a cette volonté justement de démanteler un peu l'unité des territoires palestiniens.
Oui, donc Oslo, c'était à la base un processus de paix, qui était un processus qui, après 5 ans, devait aboutir à la création d'un État palestinien indépendant. Et donc, les questions les plus difficiles à être traitées après les 5 ans. Mais en fait, ce processus, il est toujours en cours. Donc, il n'est plus en cours depuis longtemps, plutôt. Mais je veux dire, voilà, ce processus est resté au stade du processus et n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Depuis ce moment-là, il y a eu une colonisation galopante, il y a eu des confiscations de terres. Mais un des faits qui a été sur le terrain à la base, c'est vrai que les Israéliens se sont retirés des grandes villes palestiniennes. Donc il y a eu le Ramallah, Bethléem, Hébron, c'est encore un cas particulier. Ils se sont retirés un peu en partie d'Hébron, mais il y a aussi Qalkilia, Naplouse, Jenin, Jéricho. Donc voilà, ils se sont retirés de ces grandes villes. Ça, c'est des zones A où, à ce moment-là, les Palestiniens sont soi-disant, enfin, contrôlent tout, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau administratif. Sécuritaire, je veux dire, les Israéliens peuvent rentrer quand ils veulent, et ils rentrent quand ils veulent. C'est là qu'ils rentrent en plein cœur de Ramallah pour arrêter des gens, ils rentrent en plein cœur de Naplouse pour arrêter des gens. Donc voilà, c'est sur papier tout ça. Mais au moins, les gens peuvent construire s'ils doivent construire, ou se marier s'ils veulent se marier, ce qui n'est pas le cas d'autres zones. Parce qu'il y a les zones B qui sont autour des zones A, où là encore, l'administration palestinienne a encore quelque chose à dire. Mais la majorité du territoire, qui est plus de 60% du territoire, c'est la zone C, où Israël continue à contrôler tout, à 100%. Tant au niveau administratif qu'au niveau sécuritaire. Ça veut dire que les gens, s'ils veulent construire une maison, s'ils veulent construire un WC, s'ils veulent nettoyer leur puits, ils doivent demander l'autorisation israélienne, et l'autorisation ne vient pas. Donc il y a une paralysie de la vie sociale et économique des Palestiniens de par cette occupation qui perdure. Et ça, il y a des rapports chaque année. Je veux dire, vous pouvez aller voir, il y a le site OCHA. Donc c'est l'Organisation d'aide humanitaire des Nations Unies. Ils font des rapports mensuels sur l'état humanitaire de la Palestine, sur l'état de blocage, tout ça, ça arrive chez le gouvernement. Enfin, il y a les rapports des consuls européens à Jérusalem qui chaque fois documentent la situation de Jérusalem. Et malgré tout, c'est vrai que la communauté internationale ne bouge pas. Elle est comme paralysée de peur d'être traitée d'antisémite. Et c'est vrai que c'est là-dessus que le gouvernement israélien et le support du gouvernement israélien jouent. Ça veut dire que dès qu'on veut critiquer le gouvernement israélien, une politique israélienne, on vous taxe d'antisémite. Au point où enlever de sa substance le mot antisémite, qui est grave, qui est un crime grave, mais ils sont tellement en train de l'enlever de sa substance, de critiquer, de l'utiliser à tort et à travers. C'est encore plus grave, justement, pour le mouvement antiraciste, pour le mouvement contre les dérives antisémites réelles qui existent quand même, quoi.
Et justement, à propos de cette définition, un des enjeux, il y a quelques années, je ne connais plus la date, il y a cette définition d'antisémitisme qui a été approuvée, enfin donnée, oui, par qui est l'Institut.
En fait, c'est IHR, oh là là, oui. Holocaust Remembers.
Voilà, c'est ça. Mais donc, cette définition a été reconnue aussi par les instances internationales, notamment, et donc c'est un enjeu aussi, parce que le fait de reconnaître cette définition d'antisémitisme, ça va, comme tu dis, dans le sens de pouvoir réprimer toute marque de solidarité avec le peuple palestinien, et c'est ça qui est mis en œuvre aussi par le gouvernement israélien. Et aussi l'autre événement, il y a en 2018, je pense, c'est l'approbation de cette loi d'identité, oui, nationale, qui aussi contribue à créer cet état d'apartheid, oui, qui est maintenant dénoncé par de nombreuses organisations internationales, mais aussi israéliennes, comme B'Tselem.
Oui, c'est deux choses différentes, mais l'IHRA, c'est vrai que c'est une question très importante ici en Europe, parce que c'est vrai que avec l'idée de lutter contre l'antisémitisme, ce qui est très bien, parfait, personne ne va à l'encontre de ça, ils ont proposé une définition de l'antisémitisme qui était très vague, et pour pouvoir me l'étayer, ils ont donné une liste de questions, d'exemples pour dire, voilà, une expression de l'antisémitisme. Et parmi ces exemples, c'est toute la solidarité avec le peuple palestinien qui est fait dedans. Donc ça veut dire que si à un moment donné, vous retrouvez à organiser une campagne de dénonciation de l'occupation ou d'une manifestation contre l'occupation ou quoi que ce soit, vous retrouvez dans les exemples qui étaient le fait que c'est de l'antisémitisme. Et c'est ça que nous, on a depuis le début. Ça fait des années qu'on va à l'encontre, qu'on proteste contre ça. C'est qu'il faut qu'il y ait une politique, une critique claire de l'antisémitisme, qu'on réprime l'antisémitisme, ça c'est essentiel. C'est d'ailleurs très important, même pour la cause palestinienne. Je veux dire, nous, pour nous, la cause palestinienne n'a rien à voir avec les questions religieuses, n'a rien à voir avec les questions communautaires. Et tant le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme font partie de nos combats. Mais là, ce n'est pas ce combat-là. Ici, on est en train de réprimer et de rétrécir toutes les voies d'expression, de critique d'une politique, d'un gouvernement israélien. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit juif ou le fait qu'il y ait d'autres juifs qui y habitent. Le fait, c'est juste une politique d'un gouvernement qu'on est en train de critiquer, et tout de suite ils veulent alors nous mettre dans cette idée de ah, mais si vous nous critiquez, ça veut dire que vous êtes antisémite. Et c'est pas seulement qu'au niveau des gouvernements que ça a été adopté, c'est même des villes. Donc il y a des villes qui ont adopté ce genre de cette définition, avec pas spécialement des répercussions pour le moment en Belgique, mais qui pourraient en avoir. À un moment donné, on veut pousser sur ce bouton, on va dire, ah mais non, mais vous avez adopté l'IHRA, et regardez ce qu'ils sont en train de faire, il faut interdire ce genre de manifestation. Comme il se passe pour le moment en Allemagne. En Allemagne, il y a plein d'organisations, de conférences, de conférenciers qui ne peuvent plus avoir lieu, qui ne peuvent plus être invités, parce que ça rentre pour eux dans la définition de l'IHRA. Et donc, c'est en train de museler complètement la société civile internationale, pas seulement la société civile palestinienne ou israélienne, parce que les ONG israéliennes subissent aussi la même censure sur place, quoi. Alors à côté de ça, il y a des lois qui sont votées en Israël qui ont tout fait pour réduire les libertés d'expression des ONG israéliennes. Ils ne peuvent pas parler de Nakba, ils ne peuvent pas parler du boycott. Et l'autre, c'est la loi État-nation qui déclare que l'État, qu'en Israël, il n'y a que l'État, que les Juifs qui ont le droit à l'autodétermination. Ça veut dire, ils mettent clairement sur papier qu'il y a un État d'apartheid. C'est vrai qu'il y a 20% de la population israélienne qui sont des Palestiniens. Mais malgré tout, c'est les seuls juifs de cet État qui peuvent tendre vers l'autodétermination. Et à côté de ça, il y a un autre article de cette même loi fondamentale qui est l'équivalent de notre constitution, en fait, hein, chez eux, parce qu'il n'y a pas de constitution, mais il y a juste des lois fondamentales qui régissent le droit en Israël. L'autre loi, c'est de dire d'encourager la colonisation du territoire et de régulariser les colonies qui n'ont pas été légalement construites. Au niveau du droit international, toutes les colonies sont illégales. Mais pour Israël, parfois, il y a des colons qui viennent s'installer de façon individuelle, ils mettent une petite caravane et puis ils s'installent comme colonie. C'est illégal entre guillemets pour Israël, mais ils ont quand même l'eau, l'électricité, l'armée qui est tout de suite là dans l'heure pour pouvoir les entourer, les aider. Et donc là, carrément dans la loi, ils indiquent qu'ils autorisent que des Israéliens viennent confisquer des terres dans le territoire palestinien pour construire des colonies pour les Israéliens. Donc il y a une institutionnalisation de l'apartheid qu'on voit depuis longtemps. Mais heureusement, nous, l'ABP a lancé une campagne depuis un petit temps là-dessus. Au début qu'on en parlait, c'est comme si on parlait dans le vent. Et là, depuis un petit temps, de plus en plus d'organisations en parlent. Nous, on avait commencé à l'époque où Al-Haq, qui est l'organisation des droits humains palestiniens, avait fait un rapport là-dessus. Badil, une autre organisation palestinienne, avait aussi fait un rapport là-dessus. Mais là, dernièrement, il y a eu B'Tselem, qui est une organisation israélienne des droits humains, qui a fait un rapport, un statement, comme ils disent, donc pour dire que oui, la politique qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés est de l'apartheid, parce que cette ONG ne travaille que sur le territoire palestinien. Mais il y a eu aussi Human Rights Watch qui a fait tout un grand rapport, et dernièrement encore Amnesty International qui a fait un rapport de plus de 200 pages argumentant toutes les facettes de l'apartheid, que ce soit en Israël, en Palestine et pour les Palestiniens de la diaspora. Donc c'est vrai que l'apartheid s'exprime différemment d'un endroit à l'autre, d'un Palestinien à l'autre, et ça fait partie de la fragmentation. Mais c'est vrai que c'est Israël qui contrôle un territoire de la mer au Jourdain, de la mer Méditerranée au Jourdain, avec des droits et des devoirs différents en fonction de qui qui donc les colons en Cisjordanie n'ont pas les mêmes droits que les Palestiniens de Cisjordanie. Les Palestiniens d'Israël n'ont pas les mêmes droits que les Juifs israéliens. Les Palestiniens de la diaspora qui veulent rentrer chez eux parce qu'ils sont originaires d'une ville ne peuvent pas rentrer chez eux, alors qu'un Juif, dès qu'il arrive et qu'il prouve qu'il est Juif, il peut venir s'installer là où il veut. Donc il y a une discrimination à tous les niveaux. Mais je veux dire, l'apartheid, on n'a pas utilisé le mot apartheid. Enfin, les organisations des droits de l'homme n'ont pas utilisé le mot apartheid juste pour utiliser un mot qu'on connaît. D'ailleurs, les nouvelles générations ne connaissent pas le mot apartheid. Mais c'est parce que c'est un crime défini au niveau du droit international. Et c'est important qu'au niveau des gouvernements, ce mot soit bien compris, bien inculqué. Au niveau de sa définition au niveau du droit international, c'est un crime. Et ce crime il demande à être à agir. C'est pas seulement de dire ah oui c'est dommage que non, il y a une obligation aux États d'agir pour arrêter cette politique d'apartheid, ce crime d'apartheid.
Et justement, tu parlais de l'importance de pouvoir, pour les participants à des missions civiles, de venir témoigner. Il y a aussi, tu l'évoquais, de nombreuses campagnes qui sont mises en place. Quels sont les leviers, ou en tout cas les pistes de leviers actuels? Il y a la question de l'apartheid, et donc tu évoquais le fait que l'ABP avait...
Oui.
Mis en place cette campagne d'ici apartheid, je pense.
Oui, c'est ça.
Et donc quels sont les leviers, les liens avec peut-être d'autres organisations, d'autres campagnes qui peuvent être faites au niveau international aussi.
Au fait, on travaille aussi en lien dans le cadre d'une coordination des associations européennes pour la Palestine. Donc on essaye aussi de nous coordonner au niveau européen, de faire du plaidoyer envers le gouvernement belge, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Maintenant, le campagne, je crois qu'il n'y a pas une campagne où on va dire, ben voilà, on va faire ça et ça va régler le problème. C'est vrai que chacun peut s'investir comme il peut. Donc, participer à une mission, aller voir sur place pour comprendre, pour sentir les choses. Mais parfois, on a une connaissance théorique et le fait de les voir, de les sentir, ouvre plus de questions ou répond à d'autres. Mais c'est vrai que ça permet aussi de se sentir plus à l'aise pour pouvoir témoigner et pour pouvoir interpeller son propre le monde politique, son député, sa commune. Et je crois que c'est ça aussi un des premiers leviers qu'on a fait là en septembre, en octobre, pardon. Mais il y a des rencontres comme des conférences qu'on organise pour pouvoir en parler, pour en discuter avec des personnes. On a des régionales un peu partout à Bruxelles et en Wallonie pour pouvoir concevoir ensemble des actions sur ce thème de la campagne This is Apartheid. Comment la faire connaître, comment faire mieux l'expliquer autour de nous. Alors la campagne d'apartheid, c'est aussi l'apartheid apartheid free zone. On est en train de mettre en place une campagne pour que des communes, des commerces puissent se déclarer libres d'apartheid. Donc avec tout un descriptif de ce que c'est que l'apartheid et qu'est-ce que c'est que d'être libre d'apartheid par rapport à toutes les complicités qu'il peut y avoir avec des entreprises installées dans les colonies, dans des entreprises qui participent à la colonisation ou à l'occupation du territoire palestinien. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place maintenant et qui est en train de s'inventer au jour le jour avec les membres de l'ABP ou avec tous ceux qui ont envie d'y participer, de voir un peu comment on peut au niveau de créer un réseau qui se déclare libre d'apartheid.
Et effectivement, la question des entreprises qui sont sur place, et donc la question des produits des colonies, comme oui. On les appelle, c'est aussi un gros levier d'action qui est possible aussi au niveau local, citoyen,
oui,
de pouvoir...
En fait, les Palestiniens ont lancé depuis 2004 la campagne BDS, qui est boycott des investissements en sanctions. Dans le même esprit qu'il y a eu en Afrique du Sud, de dire voilà, les citoyens peuvent boycotter de là où ils sont. Et c'est vraiment une campagne de tout ce qu'il y a de plus pacifique, disons on boycottera tant qu'Israël ne respectera pas le droit international. C'est pas pour la démolition d'Israël ou quoi que ce soit, c'est vraiment lié dans les textes pour l'application du droit international. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est boycotter les produits qu'on veut pas soutenir, parce qu'on veut pas permettre la viabilité de ce genre de commerce. et en particulier pour les produits venant des colonies. Mais pas que, on pourrait à un moment donné dire, voilà, c'est un gouvernement israélien qui est élu par des citoyens, on veut faire un boycott généralisé. Je veux dire, c'est pas honteux de le faire, mais c'est vrai que là où on a surtout travaillé pour le moment, c'est pour cibler les colonies et le commerce avec les colonies et les entreprises coloniales et les entreprises qui soutiennent les bulldozers, toute la technologie internationale qui sert à coloniser le territoire palestinien. Et donc, il y a plusieurs organisations, il y a des banques qui donnent des prêts pour pouvoir, pour que les colonies puissent être construites. Il y a des entreprises qui font l'électrification. Enfin, il y a plusieurs entreprises. Et donc, pour nous, ce qu'on demande actuellement avec des ONG un peu de différents pays européens, on a lancé une initiative citoyenne européenne qui est une initiative signée par cet individu, cet citoyen. Et on doit récolter 1 million de signatures sur une année. Ça, on a encore jusqu'à fin février pour arriver au million. On est loin, mais au niveau belge, on est quand même pas mal avancé. Et même si on n'arrive pas au million, si on arrive à avoir un très bon score en Belgique, c'est important aussi pour les négociations au niveau national. Mais je crois que si chacun fait signer et fait signer son voisin, on va y arriver. En fait, c'est vraiment des petites choses. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas que des grandes actions. Parfois, il y a juste une action. À un moment donné, cette initiative citoyenne, elle dit quoi? C'est que, au niveau du droit international, tout le monde est d'accord pour dire que les colonies sont illégales. Et ça, même les Américains le disent. Je veux dire, voilà, il y a des choses que c'est incontestable. À un moment donné, si on crue un feu rouge, eh bien, on est dans l'illégalité. On peut dire qu'on était pressé, mais en attendant, il y a une infraction. Là, les colonies, au niveau du droit international, c'est un crime de guerre, c'est illégal. Et donc, que les produits fabriqués dans ces colonies soient vendus en Europe, soient sur le marché européen, c'est pas possible. Ça veut dire que des citoyens européens peuvent acheter ça sans le savoir et se rendent complices de la colonisation puisqu'ils se rendent complices de la viabilité économique de ces colonies. Mmh. Et nous, ce qu'on demande avec ces millions de signatures, qui est presque le minimum syndical, c'est de dire, discutons-en. On veut 1 million de signatures pour demander à la Commission d'en discuter, d'ouvrir la question de, c'est quand même pas normal que des produits issus d'une violation de droit soient tout à fait librement en vente ici, et que nous, on se retrouve à être complices de ça. Et même ça, les gens ont du mal à signer, alors que c'est quand même le béaba. Bon, c'est une initiative citoyenne européenne, ça veut dire qu'il faut un quota par pays, et il faut qu'il soit sûr que c'est des citoyens européens qui signent, pas d'autres, et qu'on signe pas 10 fois. Donc, ils nous demandent de donner notre nom et notre numéro de registre national. Et c'est vrai que quand on nous demande notre numéro de registre national, ça fait peur à certains, mais c'est juste pour pouvoir avoir le quota et être sûr que c'est des personnes qui sont en Belgique et qui n'ont pas signé plusieurs fois par distraction ou pas. Mais donc, voilà. Et là, j'encourage tout le monde à signer cette pétition. C'est sur le site madeinillegality.org. Donc, c'est en un mot, madeinillegality avec Y à la fin, .org.
Et donc, c'est jusqu'en février
2023.
Et voilà.
Mais autant faire le plus vite possible.
Voilà. Comme tu disais, même si en Belgique, on a déjà atteint le quorum, l'objectif aussi, je pense, de notamment la plateforme d'ONG qui traite de la question, c'est aussi de pouvoir augmenter la pression sur le gouvernement belge aussi, parce qu'il y a aussi une proposition de loi, je pense, qui a été déposée et qui vise justement à différencier la politique. Il y a un accord de commerce qui a été traité, un accord de partenariat Belgique-Israël, si je ne me trompe pas.
En fait,
et donc, de pouvoir dire, ben non, en fait, on ne peut pas donner des préférences ou libre ouverture aux produits qui viennent d'Israël sans différencier ceux qui viennent d'Israël et ceux qui viennent des colonies.
Oui. En fait, il y a eu toute une politique de différenciation dans le sens où de mettre de l'étiquetage des produits, en disant et donc dire que ce produit-là vient des colonies. Parce qu'au niveau européen, il y a des accords avec Israël pour une exonération des franchises de douane pour les produits venant d'Israël. Et donc ces produits venant des territoires occupés, donc des colonies israéliennes, ne doivent pas pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel que Israël bénéficie à Israël. Mais au-delà de ça, de dire, ok, on va différencier, on va mettre que c'est le fruit d'une occupation, c'est le fruit d'un crime. Je veux dire, il y a pour nous, l'important, c'est que la Belgique puisse voter une loi en disant qu'on interdit ces produits. D'une part, il y a déjà eu plusieurs phases où il y avait eu une petite note sur le site du ministère des Affaires étrangères mettant en garde les entrepreneurs belges qui allaient investir, qui n'allaient pas dans les colonies ou des choses pareilles. Donc il y a eu depuis quelques années déjà des directives européennes, des directives belges pour ne pas faire de commerce avec les colonies. Mais il n'y a jamais eu de dire mais on arrête ces produits ne doivent pas se retrouver ici. Et donc j'espère que cette loi qui va venir en Belgique sera une des premières au niveau européen et qu'elle sera suivie par d'autres pour interdire ces produits. Mm-hmm. Qu'on soit cohérent avec nous-mêmes, si on dit à un moment donné que le droit, on veut respecter le droit, on veut respecter le droit international, ben ça c'est un des premiers signes, je veux dire, c'est le minimum syndical, je dirais, mais le minimum du droit.
Et je pense que là c'est en bonne voie ou...
C'est en discussion, en tout cas, au niveau du gouvernement.
Voilà,
et du Parlement.
Il me semble qu'ils ont dit. Je voulais aborder quelle était l'autre question. Tu évoquais aussi la question du boycott. Effectivement, quand on voit des produits qui viennent d'Israël dans notre supermarché, c'est assez facile de ne pas les acheter. Il y a toute la face cachée aussi des investissements justement qui sont plus complexes et de toutes ces entreprises, comme tu disais, qui font des prêts, les banques aussi, ça se voit pas directement que BNP ou telle autre banque font des investissements massifs.
Beaucoup de banques investissent à des degrés différents dans les territoires occupés. Il y a une campagne qui s'appelle Don't Buy into Occupation, qui dénonce justement les relations entre les banques et l'occupation. Et vous pouvez voir, c'est aussi une coalition européenne qui a lancé ça, une coalition internationale. Plusieurs banques belges sont dans le collimateur de ça, où on les interpelle. On avait des actions l'année passée devant BNP Paribas, en leur demandant d'arrêter d'investir, mais il y a aussi la KBC, enfin, il y a plusieurs banques qui sont en Belgique, qui sont impliqués dans le financement de la colonisation. Mais c'est fou parce que la société civile, elle trouve des moyens de là où elle est, de dire ok, nous on veut boycotter ou on veut interpeller le commerce comme ça a toujours existé. Mais alors à côté de ça, on diabolise. Israël qui fait la propagande, et c'est à la limite, c'est logique quelque part. Dans toutes les guerres, il y a des propagandes. Et que les Israéliens disent, au début ils disaient que le BDS c'est rien, puis après maintenant ils disent que c'est des terroristes ou que c'est des antisémites. Que les Israéliens trouvent que tout ce qui va en l'encontre de leur politique, ce sont des terroristes, à la limite c'est de bonne guerre. Mais que les Européens adoptent ce discours, c'est ça qui ne va pas. Mmh. C'est qu'à un moment donné, nous, citoyens européens, si, parce qu'on ne veut pas acheter des produits des colonies dans la vallée du Jourdain, par exemple, on va se retrouver dans le supermarché et vous allez sûrement retrouver des poivrons qui viennent d'Israël, des dattes qui viennent d'Israël. Tous ces produits-là viennent des colonies de la vallée du Jourdain. On est passé dans une usine qui fait des emballages. Elle est en plein cœur de la Cisjordanie. C'est là qu'ils emballent tous les fruits et les légumes qui sont... Il y a des avocats, il y a des herbes aromatiques qui viennent des territoires occupés, des colonies, et qui sont vendues ici dans le supermarché, comme mine de rien. Et comme c'est en vrac, c'est écrit en petit, il faut vraiment avoir sa loupe pour voir que c'est en Israël, et dire, alors que on ne devrait pas le faire. Et le fait de dire ok, moi c'est des produits israéliens, je ne veux pas acheter, alors du coup on vous traite d'antisémite, et via l'adoption du Yashera, comme dans certains pays comme en Allemagne, vous êtes encore plus attaqué qu'ici. Enfin, heureusement on a encore une liberté d'expression en Belgique, mais par rapport à ce qui a été voté en Allemagne, toute la société civile militante pour la Palestine se retrouve complètement invisibilisée, inaudible, parce qu'on les traite tout de suite d'antisémites, parce qu'ils veulent boycotter les produits des colonies.
Et justement, dans le BDS, il y a boycott dont on a parlé, mais il y a aussi cette question des désinvestissements, donc oui, de ne plus investir, et oui, donc notamment cette campagne Don't Buy Into Occupation, oui, on pouvait envoyer du coup des lettres à nos banques pour, oui, dire arrêtez d'investir là. Et il y a aussi la question des sanctions, qui est aussi sur le devant de la scène, notamment depuis qu'il a été aussi facile de mettre en place des sanctions contre la Russie et contre Israël. Ça semble complètement impossible, alors que, pour revenir au début de l'entretien, la question des enfants emprisonnés, c'est aussi intolérable. Enfin, et personne ne semble faire quoi que ce soit. Et même, on proteste contre cette exposition qui a lieu au Parlement, oui, aujourd'hui.
Non, c'est scandaleux, parce que bon, il y a eu des protestations d'organisations pro-israéliennes disant que ce sont des enfants, de terroristes. Enfin, parfois des arguments complètement fou, mais qui sont repris tels quels par la presse. C'est ça qui est fou, que des propagandistes le disent, ok, mais que la presse le prend tel quel sans contacter les organisateurs. Je veux dire, c'est un député fédéral qui a accueilli, c'est le Parlement qui a accepté cette exposition en connaissance de cause. C'est des organisations comme Défense de l'Enfance Internationale et Broederdelen, qui est l'équivalent d'Entraide et Fraternité en Flandre. C'est des ONG avec pignon sur rue et qu'on les appelle même pas pour leur demander, tiens, et votre avis sur cette question? Non, on publie un communiqué complètement diffamatoire. Comme ça, sans aucune perspective. C'est ça qui est parfois révoltant. C'est pas qu'il y ait une propagande, mais que ça soit pris tel quel ici. Mais c'est vrai. Et aussi, par rapport aux sanctions, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que contre la Russie, il y a eu des sanctions en un mois. Tout a été mis en place. Ça fait depuis 67 qu'on demande des sanctions et qu'il n'y a rien qui bouge. Et donc, c'est vrai qu'il y a une frustration du côté des Palestiniens en disant, mais comment ça se fait que, comment ça se fait que nous, on ne nous écoute pas? Comment ça se fait qu'on réagit tellement pour... D'accord, il y a une proximité géographique, mais ok, ça prendrait plus de temps pour la Palestine, mais pas à ce point. Pas qu'il y a une telle impunité, qu'il n'y a aucune sanction qui est mise, qu'il n'y a aucun... Même pas... Au contraire, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé là après la guerre qu'il y a actuellement? On s'est dirigé directement vers Israël pour acheter du gaz qui vient en partie au large de Gaza. Et là, au niveau du droit international, rien du tout. On a besoin de gaz, on va le prendre chez les Israéliens, c'est des gens comme nous. Et que ce soit du vol, que ce soit une politique d'apartheid, que ce soit un gouvernement d'extrême droite, rien, pas une once d'hésitation, et on signe des accords comme ça. Et là, il y a tout des plaintes par rapport au fait que le gaz, il vient aussi au large des eaux internationales de Gaza. Mais ça, c'est normal. C'est Israël qui devra gérer ça sans qu'on se pose la question que nous, on est en train de participer à un vol, à une violation du droit. C'est une accumulation comme ça d'inepties et de choses qu'on ne comprend pas et qui ont lieu depuis des années.
Depuis des années. Et si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est aussi parce que le 29 novembre, c'est la journée de solidarité envers le peuple palestinien. Et donc, il y a des actions, des moments de rencontre prévus à cette occasion-là dans les prochains jours.
Ben nous, le 26 novembre, on aura une rencontre pour justement travailler ou rencontrer les membres de l'association ou les personnes qui ont envie de travailler avec nous sur les campagnes en cours, voir comment on peut avancer sur la question, une conférence sur c'est quoi l'apartheid aujourd'hui, comment ça s'exprime en Palestine. Donc toutes les informations seront sur le site, ce sera au Piano Fabrique samedi après-midi. Mais il y a aussi une manifestation qui va avoir lieu, il y a une autre conférence qui va avoir lieu à Liège sur l'apartheid. J'aurais dû regarder exactement le lieu, je crois que c'est Pop, je vais retrouver dans.
Et qui organise ?
C'est l'ABP, à Liège. C'est sur le site de l'ABP. Notre agenda est bien mis à jour. Il y a aussi des événements culturels. Ben d'ailleurs, il y a aussi des très beaux films qui passent, qui sont programmés dans le cadre du cinéma Med à partir du 3 décembre. Donc, il y a Regard sur la Palestine. Donc, c'est pas nous qui organisons, mais on en parle quand même.
Donc, l'information, c'est le 30 novembre à l'Auberge Simenon.
Voilà, l'Auberge Simenon.
C'est ça, à 19h30, une conférence avec Philippe Hansmann, Pierre Galland et Nicolas Cué. Je sais jamais comment on prononce.
Voilà. Voilà. Et il y aura aussi une manifestation, normalement, à la place du Luxembourg, le 7 décembre, pour solidarité avec les prisonniers palestiniens. Organisé par aussi une coalition, l'association pour la défense des prisonniers. C'est surtout pour la question des prisonniers, les détentions administratives. Il faut savoir que les Palestiniens peuvent être arrêtés à n'importe quel moment, être mis en détention administrative et sans qu'on sache quelle charge pèse sur eux. Et ça, c'est 6 mois renouvelables autant qu'on veut. Et donc, il y a plus de près de 3 000-4 000 prisonniers, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais là encore, un ami à nous, Salah Amouri, avocat qui travaille pour une des organisations de défense des prisonniers à Damir, qui est en prison, qui a déjà plusieurs fois été en prison et qui est encore de nouveau mis en prison depuis maintenant plus d'un an, et chaque fois c'est renouvelé. Et donc on pense à lui à chaque fois pour ses manifestations, mais on pense à lui et on pense à tous les autres prisonniers qui sont en détention pour le moment dans les geôles israéliennes.
Et effectivement, c'est le 3 décembre qu'il y a le regard sur la Palestine, oui, dans le cadre du festival Cinéma Met, avec justement un reportage sur un des villages
Batir,
voilà, que le groupe a visité.
Oui. Voilà. Ça, on pourra voir la partie qu'on n'a pas pu voir, puisque à Batir, on a cueilli des olives, on a entendu l'histoire du village, mais on n'a pas pu aller au centre du village. Et donc là, j'espère que... Je n'ai pas vu ce film, j'en avais d'autres, on pourra voir le cœur du village.
Voilà. Nadia, merci beaucoup d'être venue. Je ne sais pas si tu as une dernière information. Et donc, le forum d'émission samedi, c'est ouvert à qui est intéressé ou c'est...
Oui, en fait, juste nous envoyer un mail à l'adresse info@abp-wb.be. Et voilà. Et les personnes qui ont envie d'avoir plus d'informations sur l'ABP, voilà, peuvent nous faire signe, peuvent nous rencontrer, en discuter. On a aussi un trimestriel qui est envoyé à toute personne qui souhaite le recevoir. Et donc, voilà, le prochain sera pour décembre. On a plein d'activités.
Juste une petite, un petit détail, l'exposition au Parlement, est-ce qu'on peut y aller librement ou est-ce qu'il faut...
Aujourd'hui, c'est le dernier jour.
Ah, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc ben voilà. Tant pis alors.
Sinon, écrivez-nous, on pourra essayer de faire en sorte que vous puissiez la visiter encore aujourd'hui ou peut-être demain, mais ils sont en train de la démonter, je crois.
Ah, voilà. Ok. Bien, merci beaucoup Nadia Farc d'être venue parler de la situation en Palestine. N'hésitez pas à aller donc sur le site de l'ABP pour en savoir plus sur les différentes activités. Donc association-belgo-palestinienne.be. Et ben merci beaucoup et bonne journée à vous. Nous, on continue en musique pour un dernier morceau et je vous propose d'écouter